goût du monde, Clémence de Navy.
Bonjour, bienvenue dans Le Goût du Monde, l'émission qui parle de ce que l'on mange, de ce qui se mitonne et se raconte autour de la marmite, car manger est affaire de partage et d'être ensemble. Cette semaine, nous avions envie de partager justement les derniers moments du Ramadan, ce mois de carême si particulier cette année et ce où que l'on soit dans le monde. Un Ramadan en temps de virus, de confinement, d'interdiction d'être proches les uns des autres, d'interdiction de se retrouver. Pour la bonne cause évidemment, pour lutter contre le virus et limiter sa propagation. Mais la radio nous offre ce cadeau, être à distance et ensemble. Alors comment vivez-vous, avez-vous vécu ce mois si particulier? Comment préparez-vous l'Aïd? Nous en parlons aujourd'hui avec nos trois invités, deux femmes passionnées de cuisine l'une et l'autre. Bonjour Batordiani.
Bonjour Clémence.
Vous êtes sénégalaise, chef cuisinière, traiteur, vous avez créé Teranga, c'est une entreprise de traiteurs à domicile, et vous êtes aussi l'une des super mamas de l'association Meet My Mama, qu'on avait eu la chance et le bonheur de recevoir dans Le Goût du Monde, en ligne de Grenoble cette fois, on est un peu plus au sud maintenant. Bonjour Fanta Diura.
Oui, bonjour Clémence.
Vous êtes sénégalaise vous aussi, la femme derrière Afrique Cuisine, c'est un blog, c'est de la gourmandise ce blog, garanti, et des livres digitaux avec des recettes justement pour le Ramadan dont vous allez bien sûr nous parler pendant cette émission. Et évidemment, deux femmes, il nous fallait aussi un homme. Bonjour à vous Jean-Marie Koalga.
Bonjour.
Vous êtes au nord du Burkina, à Ouaigouya. Vous êtes le coordinateur du mouvement Slow Food au Burkina. Alors le mouvement Slow Food, on en a parlé dans Le Goût du Monde, hein. C'est vraiment un mouvement qui s'intéresse, c'est le contraire du fast food. On prend le temps de manger bien, de la nourriture bonne pour nous, pour le corps et aussi pour la terre. Et vous êtes le conseiller d'ailleurs du mouvement Slow Food pour l'Afrique de l'Ouest, observateur aussi, et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, de bien des pratiques alimentaires. Moi, je vous dis bonjour à tous les trois et merci d'être avec nous. La première question va être peut-être à qui veut, peut-être Bator, en quoi déjà est-ce que vous pourriez nous dire, mais vous allez tous nous dire les uns après les autres, peut-être en quoi est-ce que ce Ramadan est-il si différent?
La première chose qui me vient à l'esprit, c'est le Ramadan chez soi, c'est-à-dire le Ramadan qui n'est pas comme les autres Ramadans, le Ramadan qui... le partage est très très limité et où le partage est restreint parce qu'on reste chez soi.
D'accord, c'est une espèce de solitude du coup alors.
Voilà, solitude parce que moi pendant le Ramadan, c'est vrai que ma mère n'habite pas loin, j'ai ma famille juste à côté et à chaque fois on allait tous ensemble couper puisque je vais juste avec mon mari et mes enfants. Du coup, là, on se retrouve seule avec mon mari. Bon, mes enfants ne font pas, du coup, je suis seule avec mon mari, quoi.
Donc, encore plus difficile avec sa mère à proximité, Bator. Fanta, vous aussi, mais votre mère, elle, n'est pas tout à côté. Quel est le plus flagrant en ce qui vous concerne pour ce Ramadan 2020 si particulier?
Pareil que Bator, hein, c'est la solitude. Hein. Moi, j'ai la chance d'avoir mes deux sœurs à Paris. Donc en général, pendant le mois de Ramadan, on se voit, on essaie de se voir au week-end. Et du coup, ça m'a beaucoup manqué. C'est la solitude, le fait de ne pas voir d'autres personnes, enfin, échanger, manger ensemble.
De pouvoir partager comme ça. C'est ce que vous notez également, Jean-Marie. Qu'est-ce que vous avez pu observer, vous, dans les mouvements, peut-être, des gens moins ensemble, forcément, puisqu'il y a ces couvre-feux, cette interdiction d'être ensemble, par définition, pour lutter contre le virus. Qu'est-ce qui vous a semblé le plus criant?
Bon, en tant qu'observateur, je ne suis pas musulman, mais je crois qu'on vit avec nos frères et sœurs musulmans. Et ce qui frappe rapidement quand on voit ce mois de Ramadan, c'est vraiment la fermeture des lieux de prière, des mosquées. Parce que c'est un mois très particulier où les musulmans se retrouvent dans les mosquées généralement regroupées et les 10 derniers jours, c'est des moments consacrés vraiment à des prières nocturnes dans les mosquées. Malheureusement, avec la maladie, ben, cela n'est pas possible. Et donc, on sent vraiment la souffrance de nos frères musulmans qui ont vraiment du mal à accepter vraiment cette situation. Mais bon, comme c'est une question de santé, ils sont obligés de se conformer. Mais il faut reconnaître que c'est vraiment un coup dur pour le fait que les gens sont isolés, ils n'ont pas la possibilité de se retrouver. Et là, vraiment, en matière spirituelle, religieuse, c'est vraiment un grand coup.
Vous, Fanta, Bator, également, la prière, le fait de ne pas pouvoir faire la prière ensemble, c'est indissociable, évidemment. Le Ramadan, c'est un mois bien particulier pour exprimer, vivre intensément sa foi. On jeûne pour ça, pour renforcer sa foi également. Comment est-ce qu'on la vit, du coup, sa foi, comme ça, à distance, j'ai envie de dire?
Comme dirait Jean-Marie, c'est très difficile parce que non seulement on coupait en famille, c'est-à-dire on mangeait tous ensemble, entre familles, entre voisins, mais après le soir, enfin pour la prière du soir, on allait toujours à la mosquée. Il y avait une ambiance, il y a une petite ambiance pendant le ramadan, le soir à la mosquée, qu'on ne retrouve pas ailleurs. Même si on fait la prière à la maison, on fait la prière chez nous, bien sûr on garde toujours notre foi parce que c'est en nous, mais il y a ce manque de communauté, il y a ce manque de réunion, d'exprimer notre foi ensemble.
Vous le savez sans doute, moi je ne suis pas musulmane, donc est-ce que vous pourriez nous décrire justement en quoi ça, qu'est-ce que ça suscite en vous comme sentiment justement ce partage quand vous allez à la mosquée, pour décrire un petit peu les ambiances, qu'on sache, nous qui ne sommes pas musulmans et qui aimerions justement à aller à la découverte de votre culture et de votre foi.
Alors c'est un sentiment de joie, c'est un sentiment de paix en soi. On se sent entouré par une communauté qui a la même foi que nous. C'est vraiment exceptionnel en fait. Faut vraiment le vivre. À chaque fois qu'on finit la prière du soir à la mosquée, même à la maison, déjà on a le sentiment d'avoir accompli notre journée de jeûne. On a l'impression d'être en paix avec nous-mêmes. Voilà, c'est le sentiment de paix, le sentiment d'apaisement.
Vous partagez Fanta, j'imagine?
Tout à fait, c'est ça en fait. Donc le fait de ne pas pouvoir aller à la mosquée, ne pas voir ses sœurs, hein, parce qu'en général, quand on est musulman ou musulmane, les autres, même si ce ne sont pas forcément des Sénégalais, ce sont nos sœurs ou nos frères de confession. Donc ne pas les voir, parce qu'après la prière, on se serre la main, on se dit des choses qui font vraiment plaisir et on se sent moins seul. Du coup, ça a beaucoup manqué. C'est une occasion aussi de se promener, hein, parce que quand on va à la mosquée pour prier, c'est une occasion de faire un peu de sport, le temps de trajet et ce sentiment de ne pas être seul, de partager ce mois avec d'autres personnes, avec une communauté qui est présente, ça manque beaucoup, beaucoup et ça pèse parfois aussi. Hein, mais bon.
Double pénalité en plus en France. Jean-Marie, vous alliez nous dire.
Ah oui, en tant que croyant, ah oui, se retrouver à la mosquée ou avec les frères et sœurs musulmans, c'est vraiment réconfortant. Parce qu'on est avec des personnes qui croient, qui ont la même foi que toi, qui partagent les mêmes paroles, les mêmes convictions.
Bien sûr, puis c'est rassurant, du coup, on se sent oui, apaisé, comme vous disiez, Bator. En plus, en France, on sort de 2 mois de confinement, où les gens... Bator, Fanta, tout le monde sont restés chez eux avec interdiction de sortir, donc de voir d'autres personnes. Du coup, ne pas pouvoir en plus maintenant encore exprimer sa foi, c'est comment est-ce qu'on le vit justement? Est-ce que cette impression de double peine peut-être, c'est peut-être maladroit d'utiliser comme ça, mais est-ce que c'est un sentiment que vous avez, Bator ou Fanta?
Oui, c'est un sentiment de double peine, mais que je peux comprendre parce que c'est nécessaire en fait. Par contre, pendant le confinement, enfin, je trouve que c'était moins difficile que d'habitude le ramadan, le fait de le faire. Parce que, bon, en général, quand on fait le ramadan, qu'on se réveille à 3h, 4h du matin pour manger, on fait sa prière et on se recouche, normalement, 1 heure ou 2 heures après, on se lève pour aller travailler. Pendant le confinement, on en a profité, on s'est reposé. C'est l'autre sens de ce mois et qui tombe avec le confinement. L'autre sens qui m'a fait du bien, moi, personnellement. Le côté repos m'a fait beaucoup de bien, a fait passer le ramadan tellement vite que je ne l'ai pas vu passer. Et voilà, faire mal pour un bien, on va dire.
Ouais, j'imagine qu'il y a toujours du bien dans une situation un peu difficile. Donc, Fanta, vous partagez également?
Oui, c'est ça, hein, c'est sentiment de double peine, mais disons que c'était un mal nécessaire, parce que, comme Bator l'a si bien dit, pendant le ramadan, quand on travaille, on est sous pression parce qu'on est fatigué. On se lève à 4h du matin, 3h pour le petit déjeuner, se coucher 1 heure après, se lever. Aller au boulot, il faut être au top parce qu'on ne va pas dire à son boss, moi je n'ai pas dormi ou j'ai à peine fermé les yeux. Donc le fait d'être confiné, c'est vrai que ça a changé des habitudes au fait de la vie de tous les jours, hein, où il faut être au taquet au boulot, être au taquet après la maison, parce que c'est deux choses qu'il faut bien remplir. Hein. Il faut remplir ses journées de bureau, remplir ses journées à la maison. Du coup, moi aussi, ça m'a fait beaucoup de bien. Je me suis reposée, aller à l'essentiel. passer du temps avec les enfants.
Moi, j'aime bien parce que cette émission commence à peine et on parle déjà de choses positives. Il y a un des aspects que je voudrais partager avec vous, c'est un des manques surtout dont m'a fait part et dont témoigne Sori Yolé. Alors, elle est membre du réseau Slow Food au Burkina également, peut-être que vous la connaissez, Jean-Marie. Le manque qu'elle exprime vraiment très clairement, vous allez l'entendre, c'est celui de toucher les autres. Je vous propose de l'écouter.
Bonjour Clémence Denavi. Merci de m'avoir donné cette opportunité de participer à l'émission Le Goût du Monde. Je profite de votre micro pour saluer cet homme au grand cœur, Carlos Pitrini, que j'ai particulièrement eu la chance de le rencontrer au Salon du Goût à Terra Madre 2018 à Turin, en Italie, pour son combat de tous les jours qui est de consommer le bon, propre et juste. La pandémie de la maladie à coronavirus, à ce temps de carême, a beaucoup bouleversé les habitudes des gens, particulièrement les musulmans. En Afrique et surtout au Burkina Faso, les toucher a une très grande valeur. Mais avec l'apparition de la COVID-19, on n'a plus de salutations main à main, plus de d'accolades, plus de grands attroupements. Chose très compliquée en ce temps de carême, car les musulmans, à l'heure de la rupture du jeûne, aime le partage de la nourriture en famille, entre ceux qui en ont et ceux qui n'en ont pas. À cause de cette pandémie, beaucoup de musulmans qui n'ont pas les moyens et qui ne peuvent plus se retrouver non plus en famille avec les autres pour le partage de la nourriture sont obligés de s'abstenir au jeûne de cette année 2020 à cause de la COVID-19. On a remarqué aussi un changement au niveau alimentaire. Lors de la rupture du jeûne, pendant ce temps de carême et le COVID-19, l'accent est mis sur la consommation locale, tels que les jus de pétimil, jus de bissap, jus de tamarin, les fruits oranges, bananes, etc. Les aliments riches en vitamine C. Et les plats lourds, presque bien riches en calcium, en fer, tels les sauces feuilles de baobab, avec beaucoup de semala, etc. Pour bien se maintenir et éviter la maladie au coronavirus.
Sori Yolé, donc, qui nous appelle du Burkina, se toucher concrètement. Quand je l'ai entendu, je me suis dit, mais oui, évidemment, Bator, Fanta.
Se toucher, oui. En plus, moi, je suis quelqu'un de très, très tactile, donc c'est difficile parce que on se met en condition, en fait. On ne peut pas être avec les gens, mais même quand on voit les gens, on doit garder la distance. Même quand on voit les gens, on est dans notre bulle, quoi. Chacun doit garder la distance et ça, c'est très difficile parce que quand on dit le ramadan est un moment de partage, c'est pas que partager la nourriture, c'est vraiment tout partager. C'est très délicat cette année parce que moi je le perçois comme pour le côté négatif des choses comme une petite punition parce que moi j'adore partager, moi je suis généreuse de nature. Donc pour moi le ramadan c'était le mois où je faisais des marmites et des marmites et des marmites et j'allais donner, où je faisais beaucoup de choses, des beignets, des sucreries que j'allais donner à la mosquée. Tout ça cette année je ne l'ai pas fait. Cette année je me suis sentie vraiment en prisonnière.
Oui, oui. Fanta, vous aussi?
Oui, ne pas se toucher, c'est vrai qu'on a tendance à être vraiment tactile, hein, surtout les Sénégalais. Je pense que Vator, elle comprend tout à fait. On se touche, on a le temps de prend le temps de se dire bonjour, même quand on est pressé. Donc du coup, moi, quand je rencontre des personnes ici, on respecte les consignes, les consignes sanitaires pour ne pas trop encombrer les personnes. Parfois, ça fond le cœur quand on voit une bonne copine ou une bonne voisine qui nous dit coucou et qu'on ne peut pas aller lui dire vraiment bonjour, lui demander comment elle va ou il va. C'est vrai que parfois, c'est assez frustrant. C'est comme une punition, comme l'a dit Bator, c'est une punition. Et moi aussi, ce qui m'a le plus manqué aussi, c'est chaque année, je fais des gâteaux que j'ai ramenés à la mosquée. Et cette année, ça m'a beaucoup, beaucoup manqué. Et même hier, je faisais le bilan et je me suis dit, ah mais cette année, je suis à zéro. Zéro de préparation. C'est dur, hein, c'est très dur. Moralement, on se dit, ok, le ramadan, c'est bien, c'est un mois de partage, de charité. Et derrière, on ne peut pas le vivre comme on voudrait. On ne peut pas partager nos plats, nos recettes qu'on fait, on ne peut pas discuter convenablement avec les amis, les voisins. Et ça, moralement, c'est quelque chose qu'on porte, en fait. Et je crois que ça va rester, même après ce ramadan, même après la fin du coronavirus, on espère. Hein, c'est quelque chose qu'on va raconter aux proches, on va raconter ça tout le temps, ça viendra sur le tapis. C'est un sujet qui, moi, personnellement, ça m'a beaucoup marqué. Et jusqu'à présent, même aujourd'hui, je disais, est-ce qu'il y a moyen de faire un gâteau pour la mosquée? Mon mari me dit, mais non, il n'y a pas de mosquée, il n'y a rien. Je suis toujours dans cette optique, qu'on me dise, il y a une possibilité, mais non.
Oui, c'est très significatif ce que vous dites, parce que dans le ramadan, il faut le rappeler, il y a bien sûr cette notion d'aumône, de partage, de donner aussi à ceux qui n'ont pas, et ça se passe beaucoup à la mosquée. Et Kalilou Terira, qui habite lui à Cotonou, au Bénin, nous a laissé un message aussi pour dire, résumer en quelque sorte ce que ce ramadan bien particulier fait, et évidemment il y a la notion de partage. Je vous propose de l'écouter.
Bonsoir Clémence, bonsoir à tous nos invités et à tous les auditeurs. Lorsqu'on parle du ramadan, on parle aussi d'alimentation. Et pour une bonne alimentation, on a besoin de recettes réussies. Le ramadan est un mois de partage, d'amour, de convivialité et de contrôle de soi-même. Un mois qui permet de se renforcer spirituellement et physiquement. Côté santé aussi, le ramadan est bénéfique, étant donné qu'on reste à jeûne toute la journée. Donc le stock de nutriments dans l'organisme est utilisé. Le ramadan permet aussi de délaisser les mauvaises habitudes alimentaires que nous avons prises au cours de l'année, telles que le grignotage entre les repas, et la consommation des stupéfaits tels que le tabac et l'alcool. Le ramadan, c'est aussi un moment de partage. Lors des ruptures, par exemple, on avait l'habitude de se retrouver entre amis, entre familles. En plus, certaines personnes offraient les repas de rupture aux nécessités dans les mosquées. Mais tout cela n'a pas été possible cette année à cause des mesures barrières imposées par plusieurs États dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, à savoir le confinement et le couvre-feu.
Kalilou Terira, donc, qui me rappelle aussi que les températures, elles flirtent les 45 degrés, voire dépassent souvent les 45 degrés quand on est au Mali, au Niger, peut-être même au Sénégal, au Burkina aussi, chez vous. Il faut avoir une foi en béton, me dit-il, pour jeûner dans ces régions. Ça s'ajoute. Qu'est-ce que ça suscite en vous, ce témoignage, les uns les autres?
Je le comprends très très bien, parce que, enfin, moi, c'était bénéfique pour moi le début du ramadan. Je l'attendais avec impatience parce que c'est vrai que le début du confinement, je me suis lâchée. Alors là, je n'arrêtais pas de manger. Et pour une fois que j'étais à la maison, je ne travaillais pas. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui grignote beaucoup, mais là, je me suis lâchée. J'ai vraiment fait beaucoup de pâtisserie, alors que d'habitude, je mange plus salé que sucré. J'ai senti que mon corps avait besoin de ce mois de jeûne. Le ramadan, pour moi, c'était bénéfique. J'en ai profité pour bien jeûner, pour manger ce qui était essentiel. Parce qu'il ne faut pas oublier que pendant... C'est vrai que quand on se réunit, quand je vais chez ma mère ou quand je vais chez des amis ou quand j'invite... C'est vrai que la table est ultra remplie, alors que normalement, on doit manger que l'essentiel, que ce qu'on a besoin. C'est un mois aussi, il faut se contrôler. Et en général, quand on n'est pas confiné, on se lâche, on fait beaucoup, beaucoup, qu'on ne termine même pas, qu'on ne finit pas. Et ça m'a permis, en fait, de manger, de cuisiner juste ce que j'avais besoin pour manger. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et pour rebondir sur ce que tu as dit sur jeûner dans les pays chauds, je connais un peu parce que j'ai grandi un peu au Sénégal. Et c'est vrai que quand j'étais petite, je jeûnais déjà. Au Sénégal, on apprend très tôt aux enfants de jeûner parce que c'est une habitude à prendre. C'est vrai que quand j'étais petite et que je jeûnais, la première chose que je faisais à l'heure du couper, c'était de boire de l'eau parce que j'avais trop soif. Il faisait vraiment très, très chaud. J'avais même pas faim, j'avais juste soif. Voilà, c'est ce que ça me rappelle comme souvenir.
Meilleure façon de couper d'ailleurs, hein, le jeûne, je crois. D'abord s'hydrater et ensuite le reste. Mais c'est vrai ce que vous disiez sur cette approche plus sobre, en fait, de la nourriture. C'est important aussi de chercher un équilibre. Pas toujours facile à trouver, je crois. Vous vouliez dire quelque chose, Fanta, j'ai l'impression.
Oui, je disais que c'est vrai que le ramadan, ça nous permet de nous rappeler qu'on est des privilégiés, hein, surtout nous qui vivons peut-être dans la diaspora, de nous rappeler qu'il y a des personnes qui ont tout le temps faim, qui n'ont pas cette possibilité même d'avoir cette perspective de se dire à 20h ou à 21h, j'aurai une table bien garnie. Ça me permet de me remettre vraiment en question sur ma manière de consommer, sur ma manière de voir les gens. Donc du coup, c'est ce moment-là, de se dire que on est des privilégiés, nous avons la chance de pouvoir faire des menus, de nous dire ce soir on va manger du poulet braisé, demain on mangera, je sais pas, de la tchèque, etc., ou du tchèque. Ça nous permet de prendre ce recul et de nous dire que on profite de ce que nous avons, mais ne pas être dans le gaspillage. Moi, j'ai cette chance, je ne grignote pas. Et le confinement, ça m'a permis de encore plus m'auto-éduquer, au fait, de ne pas être dans l'excès du combattant qui a mangé beaucoup de pâtisserie. Moi, je pas du tout.
On dira rien, on dira rien.
Lek lek ma kesu, chili ma wesu, lek lek ma rechu, wala sakti baku, fugune ifeke, tamalendi tete, wahnu manehi, ma bagaleno, tamay, 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 telokune, nalni, 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 umamaka, tamay, 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 gandi yag xel mi bel ni bank luma gandi mag delu tuti tan
lima tumbe lima wesu tege luse nene sebu lima tumbe lima wesu tege luse nene sebu
tamay 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 delu kule
Goût du monde, Clémence de Navi.
Lima Wessou de Youssou N'Dour sur RFI, vous écoutez Le Goût du Monde. Bienvenue à ceux d'entre vous qui n'en rejoignent l'Aïd, c'est demain. Eh bien oui, le ramadan s'achève. Quel étrange ramadan, confiné, sécurisé pour lutter contre le virus, le Covid-19. Comment avez-vous vécu tout cela? Nous en parlons depuis le début de cette émission avec deux cuisinières de passion et de profession. Tator Dieng, chef de Teranga, et Fanta Diura du blog AfriCuisine, ainsi que Jean-Marie Koalga, qui est le coordinateur du mouvement Slow Food pour l'Afrique de l'Ouest. Alors, ces effets du ramadan, on a parlé évidemment de cette distanciation, de cette difficulté qu'on avait à ne pas se toucher, ce qui est très très frustrant, à ne pas partager concrètement, à ne pas apporter à la mosquée les gâteaux. Est-ce qu'on a l'habitude dans un partage, une communion de foi en fait, qu'on a l'habitude de partager? Pour ce qui est de la nourriture, on a commencé tout juste à parler de petits écarts durant la journée, n'est-ce pas? Mais pour ce qui est de la nourriture, dans la mesure où en confinement, on pouvait pas sortir comme ça, il fallait un peu faire aussi avec ce qu'on avait dans son placard, est-ce que du coup, vous avez redécouvert des produits ou des manières de manger que vous aviez peut-être laissé de côté, Bator et Fanta, dans le tourbillon de la vie telle qu'on la vit ici, ou bien dans les échos que vous en avez au Sénégal, par exemple?
Moi, j'ai redécouvert de manger avec ma famille. Voilà, avec ma famille, entourée de mes enfants, mon mari. Parce que c'est vrai que je travaille beaucoup. J'ai un rythme effréné et je mangeais jamais avec mes enfants. On était toujours décalés, même avec mon mari. Je mangeais toujours sur le pouce parce que moi, quand je travaille au labo, je peux travailler pendant 12 heures d'affilée et je ne vais pas manger pendant ces 12 heures. Je vais juste goûter ce que je prépare, c'est tout. Mais je ressens la faim une fois que je rentre à la maison, même s'il est 2h, 3h du matin, donc j'avais un rythme très décalé.
Bator, faut rappeler, vous êtes cuisinière, chef traiteur, diplômée, donc vous êtes complètement passionnée par ce que vous faites, donc vous êtes totalement engagée dans votre profession.
Totalement. Jusqu'à que je m'oublie, moi quand je travaille, j'oublie que j'existe, je vis pleinement ma passion. Et donc du coup là, j'ai fait des menus, j'ai dressé des assiettes, on a mangé ensemble, les enfants ont apprécié et ça m'a fait plaisir de revivre ça en fait. Ça c'est essentiel en fait, le fait de voir ses enfants manger sa nourriture, de nous dire c'est bon, d'apprécier le moment.
De pouvoir se poser, enfin, et d'être concentré uniquement sur ce moment-là.
C'est ça, tout à fait.
Bon, et vous leur avez préparé quoi?
J'ai préparé de tout, parce que moi, je suis passionnée de cuisine, mais j'adore la cuisine de partout. Je ne sais pas que la cuisine sénégalaise. Entre autres, j'ai fait de la cuisine thaïlandaise, j'ai fait de la cuisine sénégalaise. Enfin, j'ai fait des hamburgers.
Des pastels quand même un peu.
Oui, des pastels. Bah, j'ai fait des pastels avec mes enfants, avec mes filles. Ce genre de choses, quand je les fais, j'essaie de les initier un peu.
Mais c'est ça, c'est l'occasion aussi de leur enseigner quelques... de partage, c'est une autre forme de partage également.
C'est ça, elles adorent en plus, elles adorent.
Et vous, Fanta, alors?
Moi, c'est pareil, en fait. Je ne cours pas comme Bator non plus, mais... Je ne mange pas en fait de la journée. J'ai pris cette habitude depuis que j'étais étudiante de ne pas manger. Je mangeais qu'une fois dans la journée, c'est le soir. Bon, c'est pas bon, hein. Du coup, avec ce confinement, ça m'a permis au moins de me poser le matin, de manger avec les enfants, de voir comment déjà ils mangent. Parce que d'habitude, c'est mon mari qui les gère le matin. Je ne suis pas très, très disponible le matin pour leur faire à manger le petit déjeuner. Donc, ça m'a permis de m'asseoir avec eux, de manger. Et ça m'a permis aussi de faire des ateliers avec les petits, enfin, mes deux enfants, de pouvoir les transmettre quelque chose, ma passion, la cuisine. Mais ça m'a permis au moins de passer du temps avec eux, autre que faire les devoirs. Parce que d'habitude, c'est le temps que je passe avec mes enfants, c'est les devoirs, là. Mais là, je me suis dit, c'est une occasion de partager la cuisine, d'expliquer des céréales. Parce que mon fils, par exemple, il mange du fognon, il mange du mil, mais le nom, il ne connaissait pas. Il va juste me décrire le plat. Par exemple, si c'est le mafé, il va me dire, est-ce que tu peux me faire le truc avec la sauce?
Avec la sauce arachide.
Oui, de transmettre le nom, de dire ça, c'est du fognon, qu'il touche. Et que je ne m'énerve pas derrière, hein, parce qu'il va en mettre partout, qui touche le mil, qui touche pas mal de choses comme ça, et ça le permet de se cultiver. D'ailleurs, il m'a même dit, je vais faire un exposé sur le baobab en classe, après le confinement, pour vous dire que c'était un moment vraiment où on a le temps avec sa famille, avec ses enfants surtout. Et moi, ça m'a permis aussi de découvrir d'autres cuisines, hein, parce que je suis vraiment dans la cuisine africaine, donc ça m'a permis de sortir de ma zone de confort, de tester d'autres recettes, de voir, ou même de mixer des recettes avec du fognon que je vais faire en mode thaïlandais ou avec du mil que je vais essayer de voir comment je pourrais amener cette nouvelle approche, etc. Ça nous a fait du bien et bon. Pour l'instant, on reste sur cette optique-là et on essaie de prendre conscience de l'importance de passer du temps, pour ma part, avec mes enfants, de pouvoir les inculquer ma passion, de pouvoir leur inculquer en fait l'importance de connaître les produits et de pouvoir en parler autour d'eux. En fait.
Mais c'est ça qui est fou, en fait, de se rendre compte que prendre le temps, on redécouvre plein de choses. Ça, c'est assez, c'est précieux, du coup. Ce sera un bon enseignement.
Enseignement.
Oui, Jean-Marie.
En fait, je veux dire que effectivement, ce temps de confinement-là, ça nous a quand même permis de constater au plan alimentaire beaucoup de choses. Hein. Vous savez, quand nous, ici, il y a l'inaccessibilité et la chèreté de certains aliments importés. Vous savez qu'avec les transports qui n'étaient plus permis, c'est vrai que les marchandises faisaient, mais ce n'était plus à la même hauteur. Donc, ça fait que, bon, les marchés aussi étaient fermés. Donc, pour accéder à certains aliments comme le riz, le couscous, l'huile, le sucre importé, parfois, c'est très difficile. Donc, on a remarqué vraiment l'identité et la sérité dans certains milieux. Et parfois, il y avait des manques. Et donc, du coup, ça a aussi permis de ramener les gens à la consommation des produits locaux. Et donc, nous, en tant que Slow Food, nous sommes fiers de ça parce que c'est une situation, opportunité qui va quand même permettre aux gens de découvrir beaucoup de choses. Et on va remarquer que les aliments, par exemple, comme un aliment qui est ici, qu'on appelle les gamnets, étaient beaucoup utilisés, surtout dans la région du Nord ici. Par exemple, on avait le petit mil, les omkoum, les jus naturels qui étaient utilisés. Et c'est qu'on a remarqué aussi, parce qu'on remarquait que les diabétiques, ceux qui avaient la tension artérielle, les obésités, rénales, tout cela, bon, étaient plus vulnérables à la maladie, plus fragiles. Donc, du coup, on a pensé que c'est le fast-food qui amenait tout cela. Donc, rapidement, les gens, par peur, beaucoup se sont retournés vers la consommation des produits locaux. Donc, c'est pour dire que cette situation de confinement, avec le Ramadan, carême aussi, ça permet vraiment de comprendre aussi l'importance de la consommation locale. Donc, je crois que l'un des aspects importants pour nous, en tout cas, en tant que Slow Food, c'est le regain vraiment pour la consommation locale et nous pensons que cela va continuer.
Bien sûr, bien sûr. En France, d'ailleurs, pendant le confinement, on a beaucoup vu des pains fleurir sur les réseaux sociaux, des pains cocottes. Les gens se sont retournés vers leur céréale qui est traditionnelle, à savoir le blé en France. Et Aïssé Toumbaï, qui est une blogueuse bien connue, du blog Aïssé Tou Cuisine, s'était insurgée en disant « Mais attendez, nous, notre culture, elle est sénégalaise, ce n'est pas le blé ». C'est le mil. Donc revenons vers nos cultures traditionnelles et nos habitudes. Le baobab, c'est formidable. Il y a plein de comme ça de céréales, de produits, de feuilles, de incroyable qu'on doit valoriser. Alors c'est Jean-Marie, on va écouter maintenant quelqu'un que vous connaissez qui s'appelle Mehdi Sankara. Il est instituteur à la circonscription de Yako, maire de Boussou, alors on est encore au nord du Burkina, et il est référent national de la communauté Slow Food qui compte quelques 18 restaurants dans le pays. Alors évidemment, il nous a parlé lui aussi de la situation de ce ramadan particulier avec d'autres aspects auxquels on n'avait pas pensé encore jusqu'à présent.
Bonjour, alors je remercie Clémence Denapit de m'avoir donné cette occasion de m'exprimer sur la situation que nous vivons avec l'apparition de cette nouvelle maladie coronavirus au Burkina Faso. Il faut se dire que une situation particulière recommande aussi une vie particulière. Ici, nous sommes dans la région du Nord, plus précisément à Yako, à 109 km de Ouagadougou. Dans cette région, il n'y a eu aucun cas de coronavirus, donc pas de quarantaine dans les villes de cette région. Mais cependant, nous vivons une situation particulière à cause des mesures gouvernementales prises depuis pour contrer l'avancée de la maladie. Et il faut dire que l'apparition de cette maladie a bien changé nos habitudes au niveau de plusieurs plans. D'abord, sur le plan de convivialité, les grands rassemblements ne se font plus comme avant. Le fait qu'on ne se salue plus main dans la main, alors c'est une nouvelle façon de vivre que nous devons adopter. Il y a aussi la distanciation qu'il faut respecter, et ce qui fait que les gens s'asseyent au moins à 1 mètre d'écart. Il faut dire aussi que lors des carèmes, beaucoup de fidèles musulmans profitaient pour célébrer leur mariage dans ce mois béni, mais comme il est interdit de plus de 50 personnes de se regrouper, ça fait que certains mariages n'auront pas lieu ce temps et seront faits après cette maladie. Aussi, il y a des célibataires qui n'ont pas la nourriture pour faire le carême. Très tôt le matin, il faut se rendre dans un restaurant pour payer et faire. Avec l'apparition de la maladie, à l'heure où ils doivent avoir le repas, il y a le couvre-feu, ce qui fait qu'il y a beaucoup aussi ne pourront pas faire, ou ils le feront en tout cas difficilement, ou avec des repas qu'ils ont payés le soir pour garder et manger le matin un peu frais. Alors, au niveau des restaurants, il faut dire que notre structure Slow Food, nous avons plus de 18 restaurants répartis un peu dans le pays, et je suis le responsable de ces restaurants, et il faut dire qu'en tout cas la vie a changé au niveau des restaurants parce que il n'y a plus de rassemblement. On avait interdit pas l'ouverture, on peut ouvrir mais on ne s'assoit pas pour manger là-bas. Les gens pouvaient venir prendre et puis aller à la maison pour manger. C'est tout récemment, que la semaine dernière, que l'autorisation a été donnée d'ouvrir en respectant toujours les mesures pour barrer en tout cas la préparation du coronavirus. Mais aussi, il faut remarquer que les gens sont revenus un peu sur la consommation des produits locaux, surtout la boisson, parce qu'il semblerait que pour être plus résistant, il faut renforcer l'immunité de l'organisme, ce qui fait que beaucoup ont préféré la boisson du tamarin que nous avons dans notre restaurant, surtout aussi chaud. Température caso. Avec cette situation, il arrive que le service de l'ONEA, qui a des difficultés pour donner l'eau partout, était obligé de donner l'eau par secteur, ce qui fait que souvent, il y a des gens qui n'arrivent pas à boire l'eau pour faire le repas, ce qui a contribué à diminuer le nombre de peut-être ceux qui font le carême.
Cette notion du mariage, c'est vrai qu'on a on y pensait pas forcément. Alors Bator.
Moi pour les mariages, c'est à double coup parce que étant professionnelle, j'ai eu beaucoup de contrats de mariage qui se sont annulés. Et notamment, on préparait un grand mariage dans ma famille. C'est le mariage de ma petite sœur, la dernière, pour le 30 mai. Et elle s'est vue annulée, quoi. Là, elle est un peu triste, mais je lui ai expliqué que tout le monde était dans le même cas. J'ai des amis traiteurs, ils ont perdu beaucoup de contrats de mariage.
Comment vous avez réussi, d'ailleurs, Bator, à réorganiser votre activité? Parce que en tant que traiteur, ne pouvant plus travailler, vous vous êtes orienté vraiment sur la livraison à domicile, ce genre de choses?
Actuellement, je me suis réorientée pour... là, je travaille avec les plateformes Just Eat et Deliveroo sur Argenteuil. Mm-hmm. Mais aussi, je fais aussi de la livraison à domicile. Les commandes commencent à arriver pour l'Aïd.
Et oui, l'Aïd, c'est dans quelques heures, hein, parce que nous sommes samedi aujourd'hui, donc c'est demain. Comment est-ce qu'on s'organise? Comment est-ce qu'on prépare, justement, déjà? On a hâte, j'imagine. Comment est-ce qu'on s'organise? Comment est-ce qu'on prépare? Et comment est-ce que vous envisagez les uns les autres, justement, de célébrer la fin du Ramadan?
Pour moi, l'Aïd, ça va être comme le Ramadan en confinement. Hein. Ça va être célébré en tout petit comité, mais ça ne sera pas comme les années précédentes. Ça sera en famille, ça sera restreint. Et il n'y aura même pas la prière à la mosquée le matin, quoi. Mais bon.
Une petite consolation préparée quand même, un plat particulièrement que vous aimez et qui signifie vraiment l'Aïd pour vous, peut-être, Bator?
Oui, nous, l'Aïd, depuis que je suis petite, quand c'est l'Aïd après le Ramadan, on fait un yassa guinar, le yassa au poulet. Le poulet, il est grillé au barbecue avant de le rajouter dans l'oignon qui a compoté. Nous, ça, c'est notre plat pour l'Aïd après le Ramadan.
Un bon yassa.
Ouais.
Fanta, il y aura du yassa chez vous également? Quelque chose me dit que vous avez préparé plein de gâteaux.
Depuis qu'on est petite, en fait, c'est vrai que d'une maison à une autre, ça varie. Chez moi, c'était plutôt des vermicelles avec de la viande grillée. Mais pour ma part, cette année, j'ai déjà fait mon menu. Je vais sortir des sentiers battus. J'irai plutôt sur des choses plutôt vers du poisson. Du coup, je me suis dit, on partira sur des plateaux de fruits de mer, du saumon, du poisson en tout cas, de manière globale. Ça me permettra qu'on puisse le préparer sous plusieurs formes, soit en forme de brochette, grillée ou même frit. Et ça me permettra aussi de me dire que voilà, on essaie de c'est la fête, on mange du poisson, c'est vrai que c'est pas commun parce qu'en général on mange beaucoup de viande et ça permet aussi de changer et de varier avec des produits locaux surtout. Hein. Donc du coup moi pour ma part cette année je partirai plutôt sur du fognon. Bon, c'est vrai que je suis une amoureuse du fognon.
Hein. Oui, vous êtes une vraie défendrice du fognon, hein, ça c'est sûr. Ce qui est bien, ce qui est une céréale que connaît bien Jean-Marie, n'est-ce pas?
Oui.
Important de défendre le fognon, ce super aliment dont on fait des couscous, on peut faire des gâteaux avec du fognon, du sucré, du salé, bref, il réjouit tout le monde.
Je vais dire le fognon à tout le monde, à mes voisines, à mon mari, parce que mon mari... Il faut dire, c'est assez paradoxal, même si le fognon, ça pousse au Sénégal oriental, la majorité des Sénégalais connaissent pas cette céréale. Du coup, moi, j'ai réussi ce pari à faire découvrir le fognon à ma belle-famille, aux amis, à pas mal de personnes que je côtoie. Quand on parle de quinoa, je leur dis, mais oui, mais vous savez que vous avez à côté quelque chose meilleur, parce que je suis militante, c'est normal. Mais je pense qu'ils doivent être tout bons. Du coup, moi, ce sera plutôt au menu du fognon avec du poisson braisé, du poisson au four. Enfin, en tout cas, ce sera un truc comme ça, avec des produits locaux et des jus locaux.
Un jus de bouille.
Ouais, jus de bouille. Surtout avec cette période un peu bizarre, je pense qu'un jus de bouille, ça fera toujours plaisir. Pour nous, pour notre palais et pour notre santé aussi, parce que c'est un super fruit.
Alors, j'ai quand même posé la question à Essay Toumbay de nous donner quelques petits conseils pour manger bien équilibré pendant ce Ramadan, parce qu'elle en a fait toute une page sur son blog, et c'est tout cuisine. Donc, je vous propose de l'écouter. Et puis après, on fera une petite conclusion tous ensemble, ça vous va? Allez, on écoute Aïssa Toumbay.
Bonjour Clémence. Alors le plus dur pendant le mois de Ramadan, c'est de manger raisonnablement. Quand je dis raisonnablement, c'est vraiment manger ce dont on a besoin, ce dont notre corps a vraiment besoin. Parce que généralement, avec la faim, on fantasme pendant la journée sur tout type de nourriture. On rêve et on se dit, ce soir, je vais manger ceci, je vais manger cela. Et le soir venu, on se goinfre au lieu de manger, au lieu de nourrir notre corps. Donc c'est important de se rappeler le but du ramadan. C'est vraiment une purification du corps, de l'esprit. Le but du ramadan aussi, c'est de laisser le corps se reposer. Donc faut éviter le soir de faire travailler notre corps, d'essayer de rattraper tout ce dont on a raté pendant la journée. Donc ce que je recommande, c'est de commencer, comme on a l'habitude, de commencer par du sucré avec la datte, ce petit fruit-là. Ça permet de faire le plein de glucose et en même temps d'avoir notre apport d'énergie. Après, je recommande de commencer par une soupe parce que ça évite d'aller tout de suite vers les pâtisseries et les autres gourmandises parce qu'une soupe, ça cale. Et en même temps, ça hydrate vraiment et puis ça permet d'avoir son apport en légumes, en vitamines. Donc, comme soupe, on peut faire des potages, on peut faire des soupes de légumes, soupes de patates douces, des veloutés de patates douces, carottes, patates douces, tomates, tomates fognons, veloutés de niébé, par exemple, ou patates douces, coriandre. Enfin, il y a beaucoup de types de soupes qu'on peut faire, ou la soupe qu'on a l'habitude de manger chez les musulmans, asparira qu'on connaît. Donc, c'est plutôt du côté du Maghreb. Essayez aussi de faire des jus de fruits naturels. Naturels, j'insiste, parce qu'il faut éviter aussi de manger trop de sucre, de consommer trop de sucre. Donc, comme jus naturel, je peux recommander les jus de pastèque. Je vois qu'il y a beaucoup de pastèques en ce moment. C'est super rapide, vous allez voir. Il faut juste découper les pastèques, enlever les pépins, mettre tout dans un mixeur, un blender, arroser un peu de jus de citron. Si vous aimez la menthe, rajoutez quelques feuilles de menthe et mixez le tout. C'est super rapide, c'est facile et c'est super bon. Ou aussi du jus de bissap, donc jus d'hibiscus. Et là, l'astuce, c'est pour éviter vraiment de sucrer, de trop sucrer votre jus, c'est de ne surtout pas, faire bouillir les fleurs d'hibiscus, de bissap. Il faut juste infuser avec de l'eau bouillante, laisser reposer pendant 10 ou 15 minutes et après revenir, sucrer légèrement, rajouter si vous voulez un peu de fleurs, d'eau de fleurs d'oranger ou des feuilles de menthe pour donner du goût et puis c'est tout. Aussi, après, au moment du repas, faire un dîner vraiment équilibré, simple, éviter les fritures. Je sais que c'est dur, mais de temps en temps, un peu de pastel, ça fait pas de mal, je suis d'accord. On peut se faire des pastels, des fataya, de temps en temps. Et pour le dîner, il faut essayer d'éviter aussi les dîners trop copieux, parce que après, on va dormir, ça peut donner des troubles de sommeil. Et comme je l'ai répété tout à l'heure, le but, c'est pas de faire travailler son organisme, c'est vraiment le laisser reposer. Donc, essayer des repas qui sont équilibrés, où on a nos apports, ou aussi qui nous calent. Pourquoi pas un yassa super léger avec du poulet au four pour éviter aussi les fritures. Du riz, donc une bonne portion de riz, enfin une portion raisonnable. La petite sauce aux oignons qui va avec, c'est du citron. Et puis une petite macédoine de légumes, parce qu'on peut mettre un peu de macédoine de légumes dans le yassa pour avoir un petit apport de légumes. Donc voilà, un bon yassa. Ça peut le faire, je pense.
Ça peut le faire, on est d'accord, un bon yassa, n'est-ce pas, tout le monde? Un bon yassa à l'orange, notamment. Ça, c'est... on entend dans la voix d'Aïssatou toute la gourmandise qu'elle a et qu'elle partage, évidemment, sur son blog et avec nous aujourd'hui. Et votre sourire, en fait, depuis le début de cette émission, on se disait avec Yann Bourdelas, qui réalise ce goût du monde, que vous avez un sourire et on l'entend et c'est vraiment très agréable. Est-ce qu'on peut terminer peut-être sur un souvenir dont vous garderez de ce ramadan 2020? C'est quoi le souvenir que vous souhaiteriez garder, Bator?
Le souvenir que je souhaiterais garder, c'est le repos. Je me suis bien reposée, c'est vrai, c'est le côté positif. Mais en tout cas, j'ai profité de ma famille, je me suis ressourcée. Et puis ce qui est très très important, c'est que je n'ai pas rattrapé mes prières. C'est-à-dire mes prières, je les faisais toujours à l'heure. En général, je les fais quand je rentre, je prends ma douche, je fais mes prières. Mais là, c'était à l'heure et donc j'étais en paix avec moi-même.
C'est bien. Fanta, votre souvenir alors?
C'est tout à fait ça. Le problème de toutes les personnes qui travaillent, c'est le rattrapage de la prière. Donc, du coup, ça nous a permis de quand même être assidus, de se concentrer sur notre foi un peu parce que parfois on délaisse ça en fait. Et c'est normal, c'est la vie qui fait qu'on est tellement pris par les choses de l'extérieur. Moi, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est le fait d'être en famille avec mes enfants, de pouvoir les voir tous les jours.
et de voir comment ils fonctionnent vraiment, parce que c'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte, mais le temps de les voir entre peut-être 18h et 20h30, c'est tellement court qu'on ne voit pas les habitudes qu'ils ont développées. Du coup, moi, pour ma part, ça m'a permis de voir que mon fils aîné, c'est un boudeur, il boude tout le temps. Et du coup, ça me permet de pouvoir lui dire qu'on ne boude pas pour un oui, pour un non, etc. Et ça m'a permis de remettre les pendules à l'heure par rapport à moi, parce que je n'ai pas un bon rythme de vie. Je mangeais qu'une fois, c'est le soir. Ça m'a permis de quand même pouvoir être assidu côté repas, pouvoir partager un repas avec mes enfants, de pouvoir être, voilà, de manger soit le matin et le soir, au moins d'avoir deux repas dans la journée. Ça, c'est des choses que j'ai acquis pendant cette période inédite. Hein. Bon, après, mauvais souvenirs.
On ne fait pas de mauvais souvenirs. On a commencé sur du mauvais, on termine sur du bon.
Enfin, je voulais juste dire que c'est pas mauvais en soi, parce que ça nous permet de nous concentrer sur l'essentiel, de nous concentrer sur notre vie de femme, notre vie de maman, notre vie en tant que passionnée de cuisine, de pouvoir proposer plus de choses, d'aller vers des choses inconnues. Voilà, c'est la découverte, disons. Si je devais qualifier en un mot, c'est la découverte, en fait. Tout un monde derrière hein, qui était avec nous, mais qu'on ne voyait pas parce qu'on courait, tout le temps. Donc, découvrir à nouveau ses enfants, sa famille, en fait, entre autres, et de voir que bah, finalement, c'était pas assez mal, hein, c'était pas du tout assez mal. Hein.
L'appel à découverte, c'est pas mal. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'on entend beaucoup parler de vite, 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 vite. Alors que vous, Jean-Marie Coalga, vous défendez le slow, donc la lenteur, le temps pris, justement, contemplé. Vous, cette période-là, comment est-ce que vous pourriez vraiment différent en fonction des observations que vous avez faites? En un mot, si vous deviez la définir cette année.
Je veux dire que ce temps de carême, c'est vrai que, bon, je ne suis pas musulman, mais je sais que, bon, comme vous savez, c'est nous en Afrique, au Burkina en particulier, les fêtes, nous les faisons toujours ensemble. Fête chrétienne, fête musulmane, tout le monde est en fête. Mm-hmm. Ben, donc, ça peut dire qu'à la fin du Ramadan, nous allons, comme d'habitude, peut-être voir ce qu'on peut faire pour manifester toujours notre fraternité, solidarité avec nos frères et sœurs musulmans, par les appels pour les souhaiter bonne fête et voir d'un proche comment peut-être les approcher pour les visites, mais en gardant les distances. Et je sais que en ce temps de carême, c'est surtout aussi le confinement avec ce temps de coronavirus qui nous a quand même, en tant que slow food, permis de tirer cette grande leçon qui est vraiment d'un premier aspect qu'au plein consommation alimentaire, il y a vraiment un aspect de reconnaissance de ce que nous disons toujours, la promotion des produits locaux. Mais d'une manière générale, je crois que cette situation interpelle de façon générale sur le respect de la diversité. Vous savez, à Slow Food, nous défendons la biodiversité alimentaire. Et je crois que ces temps ont permis aux gens de comprendre que le monde, de par son unicité, sa globalité, sa mondialisation, est une source de vulnérabilité, de fragilité très dangereuse pour l'humanité. Et donc, nous pensons que notre combat trouve ici tout son sens, du fait que nous devons valoriser ce que nous avons, de sorte à ce que la résilience et la diversité soient la source de la résilience pour notre monde. Donc, vraiment, c'est ce que je peux retenir et espérer toujours que les gens puissent vraiment continuer à valoriser nos produits locaux, dont vraiment tout le monde commence à découvrir les bienfaits.
Et on va redécouvrir tout ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les trois, Fanta, Bator, Jean-Marie, Madi, Sankara, Ibrahima aussi. On pourra retrouver sur la page du Goût du Monde tout un reportage qu'il a fait justement autour du Ramadan et la façon dont on vit ce Ramadan à Conakry. Merci beaucoup aussi à Aïssa Toumbaï d'avoir partagé avec nous ce repas. Bonne fête à tous, évidemment. Les adresses vers vos blogs, les groupes Slow Food au Burkina, les ateliers et services de traiteurs seront sur la page de l'émission. N'hésitez pas à partager encore, à nous raconter, vous qui avez écouté ce Goût du Monde, ce que vous avez retenu de ce Ramadan. Est-ce que vous vous êtes retrouvés dans les témoignages que vous avez entendus aujourd'hui? Comment avez-vous goûté ce partage autrement sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp 33 6 43 16 15 66? Merci de votre fidélité au Goût du Monde, réalisé et mis en onde, je vous l'ai dit, cette semaine par Yann Bourdelas. Merci beaucoup à lui. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure. D'ici là, surtout, prenez bien soin de vous.